Chapitre 2. Satan devrait être une idole. C'était en résumé ce qu'avait expliqué le prof pendant une bonne partie du cours. En même temps, Pierre aurait dû s'en douter. Avec une unité d'enseignement qui s'appelait sociologie des masses, il fallait s'attendre à tout. D'après le petit barbu en veste de tweed, si le christianisme émergeait aujourd'hui, les gens deviendraient tous satanistes. Parce que Dieu, c'est l'autorité suprême, sans compromis. Celui à qui il faut se soumettre pour mériter sa bienveillance. Et ça, d'après le prof, ce n'est plus des valeurs modernes. Il avait argumenté. Pour lui, à l'aune des critères actuels, Dieu serait un tyran. Il suffisait de lire la Bible, de constater ce que Dieu attendait des hommes. Le prof avait énuméré. Dieu exige qu'on obéisse aveuglément à ses commandements, sous peine d'une punition éternelle. Sa vision du monde est ultra stricte, bordée de tous côtés, quasi militaire. C'est Dieu, unilatéralement, qui décide ce qui est bien et ce qu'il estime ne pas l'être. Ce qu'il faut faire et comment, qui est bon et qui ne l'est pas, selon des critères iniques, sans discussion possible. Et ne parlons même pas de la place des femmes ou des personnes autres que strictement hétérosexuelles. Le paradis se mérite, et pour l'obtenir, il faut avoir obéi. Et surtout courber les chines à ce qu'il proclame comme étant la vérité. La sienne, pas une autre. Parce qu'il est Dieu, dominant. Dans la meute des êtres évolués, il est l'alpha absolu. L'amphi avait légèrement remué, des gloussements. Mais aussi un peu d'indignation. Barbu en tweed avait marqué une pause, un rictus amusé, avant de poursuivre sûr de lui. Dieu proclame, et nous devons le servir, être asservis jusque dans notre pensée. Toute voix dissonante, toute personne qui voudrait remettre en question l'obéissance totale, voire proposer un assouplissement, est considérée comme traître, un ennemi, même lorsqu'il s'agit d'un des propres anges de Dieu. Au final, Satan n'était-il pas juste un type proche du grand patron ? Et qui a un jour refusé d'obéir aveuglément, de ne plus se soumettre à l'autocratie décrétée par le plus puissant. On en fait une description caricaturale, de vil tentateur. Mais l'histoire n'est-elle pas d'abord systématiquement écrite par les vainqueurs qui cherchent à noircir le trait de leurs adversaires? Satan est un rebelle. On le fait passer pour un corrupteur. Cependant, ne peut-on pas simplement considérer qu'il cherche à ouvrir les yeux des fidèles? Montrer ce qu'est Dieu et sa cour. Une forme de dictature de la pensée, avec ses lieutenants fanatiques, prêts à tout faire pour faire taire l'opposition. Dieu, c'est l'opposé parfait de la démocratie. Le diable est celui qui refuse de se conformer à ce qu'il estime injuste. Barbu en tweed avait pris une pause dramatique avant de conclure. À bien y regarder, si le christianisme avait éclos de nos jours, avec nos mœurs, nos critères et nos valeurs contemporaines, Satan aurait été adulé, considéré comme le mec cool qui s'oppose, le courageux, l'insoumis, l'incarnation du droit à la différence, à la dissonance, au changement. Bref, le monde serait sataniste. L'amphi ne riait plus. Mais Barbu en tweed était fier de son petit effet et tapotait sa tempe de l'index. Il avait planté la graine. Et la semaine prochaine, il travaillerait sur ses germes. Pierre commença à le connaître. Une provocation pour réfléchir, une session pour analyser. Et ce n'était pas le débat sur le bien fondé de considérer Satan comme une idole qui l'intéressait. Pierre n'était pas dupe, seulement la dynamique de masse que ce cours aurait créée sur l'amphi. Ce n'était pas le fond de ce qu'il avait dit, mais comment ça allait impacter les auditeurs. Barbu en tweed était un petit malin. Il ne lui manquait que les cornes et la queue fourchue, rigola Pierre en sortant du couloir. Il avait terminé sa journée. Retour à la Casbah, Netflix and chill, et peut-être un peu de lecture pour ses cours aussi, s'il en avait le courage. Pierre apprenait la socio sans être totalement sûr de ce qu'il en ferait. À vrai dire, il n'en avait même aucune idée. Mais la matière l'intéressait. L'être humain l'intriguait. Était-ce à cause de son père? Il préférait éviter d'aller dans cette direction. Ça le mettait mal à l'aise. Dans le hall près de la sortie, quantité d'étudiants s'attroupaient en discutant fort. Pierre dut jouer des coudes pour se rapprocher des portes, lorsqu'une fille l'interpella.
« Hé, faut pas y aller là. T'as pas vu l'alerte de ce matin ?»
Elle avait des écouteurs tellement gros sur les oreilles qu'il mangeait sa chevelure rose, pourtant volumineuse. Pierre doutait qu'elle puisse l'entendre s'il lui répondait, mais, bien élevé, tenta sa chance.
« Il y en a tout le temps des alertes. Si on les écoute, on peut plus rien faire. C'est une grade 1. Ça va, je ferai gaffe. »
Elle secoua la tête, mine révoltée.
« Ils ont annoncé un risque réel d'emballement !»
Pierre haussa les épaules.
« Ils se plantent les trois quarts des fois, c'est bon. »
Et il poussa la porte pour quitter l'UFR. Il prit une claque dès les premiers pas. La grisaille d'abord. La luminosité était drastiquement tombée. Et pourtant, c'était le milieu d'après-midi. Et le vent vint lui fouetter le visage. Frais et autoritaire, il lui rabattit la capuche de son sweat sur les épaules, comme un père trop brutal qui n'approuve pas la dégaine de son fils. Au loin, des chiens aboyaient et hurlaient, paniqués. À l'inverse, dans les airs, il n'y avait plus un oiseau. Pendant un instant, Pierre se demanda s'il avait pris la bonne décision, et il hésita à rebrousser chemin. Mais rien que de subir le regard suffisant de la fille aux cheveux roses lui fit abandonner l'idée. Le campus de Nanterre était en train de se vider. Des silhouettes se précipitaient vers les bâtiments les plus proches.
Grade 1. Peut-être pas, en effet.
Si ça passait au curseur supérieur, ça pouvait être risqué de rester dehors.
Sauf que la plupart du temps, ça reste comme ça. Et puis ça passe vite.
Parfois, ça empirait. Ou ça durait pendant des heures. Pierre doutait. N'était-il pas plus sérieux de retourner d'où il venait? Mais il s'imagina attendre au milieu du brouhaha jusqu'au soir, voire pire, jusqu'au lendemain, dormir sur les marches, sans dîner, des chiottes bouchées avant minuit, le réseau qui ne manquerait pas de couper. Non merci. S'il fonçait, il pouvait être chez lui d'ici 30 minutes. À condition qu'il chope un train avant que la ligne soit interrompue. Et ça, c'était le plus compliqué dans son plan. Pierre ajusta son sac sur ses épaules et se mit à courir au petit trot, en direction du stade qu'il devait contourner. Le bruit devenait impressionnant. Comme des voiles claquant de partout autour de lui au milieu de l'océan démonté. Des détritus filaient au ras du sol, projetés si rapidement qu'ils semblaient partis pour l'Angleterre. Pierre ne l'entendit même pas arriver. La camionnette ne se signala qu'au dernier moment par un long klaxon qui lui souleva le cœur, et le rétroviseur lui effleura le bras. « Enfoiré !» s'emporta Pierre. Tout le monde fonçait se planquer. Au loin, une porte claquait avec tellement de violence qu'elle semblait proche de se dégonder. Ça craignait, réalisa Pierre. Il était encore temps de se réfugier. Non, pas le gymnase, ça c'était inutile. En début d'année, l'université envoyait à chaque étudiant une vidéo qui présentait les mesures d'urgence, montrait les points de rassemblement et les bâtiments déjà équipés pour tenir, et insistait sur ceux qui ne l'étaient pas. Le gymnase était en tête de liste de ceux qu'il fallait absolument évacuer en cas de tempête. Son toit représentait autant de plaques prêtes à se transformer en lames de guillotine géante. Et, propulsé par une tempête grade 2 ou 3, cela revenait à s'enfermer dans un mixeur et prier pour qu'il ne se mette pas en marche. Un raclement le fit se retourner au moment de traverser la petite rue qui faisait le tour du complexe sportif de l'université. C'était une branche de la taille d'une citadine compacte qui crissait sur le bitume, semblable à une grosse main squelettique poussée par le vent. Elle fonçait droit sur lui. Pierre se précipita sur le trottoir et se servit d'un lampadaire pour préserver ses jambes. La main le dépassa aussi sec, se brisant un doigt au passage qui s'envola d'un coup, et elle disparut dans le virage, soulevée par-dessus les taillis.
Ok, c'est vraiment craignos là.
La circulation des trains devait déjà être arrêtée.
Mais peut-être pas, s'il y a une chance que j'en chope un.
Il n'était plus très loin. Pierre s'emmitoufla dans son sweat et accéléra davantage. Il dépassa le stade, puis le centre de la piscine. Il y était presque. Encore un angle et il verrait si les trains étaient à l'arrêt. Au pire, il se planquerait dans la gare. Mais est-ce que la gare était dans la vidéo des procédures d'urgence de la fac? Des feuilles tournoyaient de toutes parts. Certaines venaient se plaquer contre lui, d'autres cherchaient à lui griffer le visage. Et Pierre avait le menton enfoncé dans le cou pour s'exposer le moins possible. Il parvint un coup de derrière l'UFR de droit et vit la gare à une centaine de mètres. Il y avait un train à quai. Pierre ne pouvait savoir si les rames allaient repartir, mais ça se tentait. Il remarqua alors qu'il était seul sur l'esplanade qui menait à la gare, le dernier fou pour tenter sa chance.
Un mouvement colossal attira son attention vers l'horizon. Au-delà de la gare, le haut building de la préfecture, symbole de Nanterre, se fit engloutir d'une traite par un mur d'un gris noir effrayant, comme s'il avait plongé dans une eau limoneuse. Ses 25 étages et 113 mètres de haut se volatilisèrent dans la déferlante. Des éclairs jaillirent quelque part dans cette masse sombre qui engloutissait le monde, projetant brièvement dans la brume sinistre les ombres des immeubles les plus hauts. Pierre s'arrêta net. Il recula même d'un pas, instinctivement. Ce n'était pas une grade 1, ça, pas même une 2. Lorsqu'il entendit le fracas d'une voiture projetée contre la façade d'une tour, Pierre songea que ce n'était même pas une 3.
« Qu'est-ce qu'elle est rapide ?»
ne put-il s'empêcher de se dire, effaré. Il avait commis une grave erreur en ne restant pas avec les autres dans ce hall. Mais c'était trop tard pour reculer. La lumière déjà timorée du jour devint spectrale, tandis qu'un rugissement terrifiant descendait des cieux. Les vêtements de Pierre convulsaient sur lui dans la fureur des éléments, et le garçon dut se pencher pour ne pas se faire renverser. Il n'allait pas pouvoir tenir bien longtemps.